Chapitre 17e, l'ami Bécette. L'ami Bécette commença, ou plutôt continua, car cet homme ne cessait de parler, de rouler des airs terribles, même quand les mots qu'il prononçait n'en comportaient pas. Il s'assit sur la chaise, devant le bureau du juge d'instruction, disposa le plus confortablement possible son ventre rond sur ses cuisses, et ramenant ses petits bras, qui semblaient plantés des deux côtés de son buste et paraissaient ne pouvoir se joindre en avant, il chanta de sa voix timbrée, plus qu'il ne dit, sa déposition. Le juge et tous ceux qui se trouvaient là n'avaient qu'à écouter. Les secrétaires seuls pouvaient se plaindre de ce déluge de paroles. « Vous pensez, claironna le citoyen de Béziers, si je connais ce pauvre M. Castagnier, mais depuis l'enfance, c'était, je vous l'ai dit, un ami de mon père. Ah, je connais son histoire, allez, depuis le commencement. » Les magistrats, résignés, s'apprêtèrent à entendre cette histoire depuis le commencement, espérant, dans cette inondation verbeuse, voir surnager quelques détails, quelques faits utiles. Martha Numa, dont la patience cependant était infinie, crut devoir, non pas essayer d'opposer un barrage à ce déluge, mais endiguer cette cataracte. « Vous êtes au courant de l'origine de la fortune de M. Castagnier ?»« Parfaitement. »« Voulez-vous nous la faire connaître ?»« Aussi brièvement que possible, quitte plus tard à nous donner, quand nous aurons plus de temps, tous les détails que vous voudrez. »«
Entendu, bon. »
Figurez-vous que M. Castagnier, comme mon père, comme moi, comme tous dans le midi enfin, était dans les vins. Puis un beau jour, on apprit que M. Castagnier lâchait les vins et faisait de la banque.
« Pardon ?» questionna le juge d'instruction qui suivait l'indication donnée par Martha Numa.
« Pardon, M. Castagnier faisait de la banque. Vous voulez dire sans doute entrer comme employé dans une maison de banque ?»«
Pas du tout. Faisait de la banque pour lui, à son compte, dans une maison qu'il fondait à son nom. »
« On ne fonde pas une maison de banque sans capitaux. » « Monsieur Castagnier en avait donc gagné beaucoup dans les vins ?»«
Pas plus que mon père, pas énormément, bien qu'à cette époque, les vins, ça marchait bien. »«
On n'avait pas encore la terrible concurrence des vins d'Algérie, qui sont très bons, malheureusement. »«
Alors, c'était le bon temps et... »«
Pardon, » interrompit Monsieur de Capestin. « S'il n'avait pas gagné l'argent suffisant, Monsieur Castagnier avait fait sans doute un bon mariage. »«
Il était encore garçon. »
Alors quelqu'un, ayant confiance dans son intelligence, ses capacités, lui avait fourni le nécessaire.
Pas davantage, c'était de l'argent à lui, bien à lui.
Il l'avait gagné dans des spéculations ?
Pas encore.
À la loterie ?
Non plus.
D'où lui venait alors cet argent ?
Mystère.
Pardon, vous le savez, vous devez nous le dire.
À cette époque, en effet, on en causa.
Mon père et combien d'autres, je les ai souvent entendus parler de cette fortune subite. Cependant, vous comprenez que ma discrétion...
Vous devez donner à la justice tous les renseignements qui peuvent faciliter sa tâche pénible.
C'est entendu, mais...
Or, précisément, nous avons de fortes présomptions qui nous font croire que l'assassinat de M. Castagnier se rattache au passé, au début, peut-être, de la fortune singulière du banquier.
L'ami Bécette se gratta l'oreille, hésita à répondre, autant qu'un méridional qui tient un secret peut tarder à le confier à l'univers, c'est-à-dire quelques secondes. Puis, pour couvrir sa déclaration, il dit « C'est devant la justice que je parle, n'est-ce pas ? La justice ?»«
Devant la justice. »
Alors il rapprocha sa chaise, se pencha sur le bureau des magistrats et, baissant la voix, il reprit
« On a raconté des histoires en quantité, qu'il avait trouvé un portefeuille dans la rue, dans une voiture et d'autres balivernes. Mais mon père et quelques gens sensés pensèrent qu'il devait y avoir autre chose. M. Castagnier était un homme très intelligent, très fort, mais trop large d'idées sur certains points et qui, comme on dit à Béziers, avait pour l'argent une passion rouge. Vous savez le proverbe du midi, pour 100 francs il se ferait cuire une main, mais pour 100 sous il retirait son prochain. Bref, mon père et ses amis avaient raison, car quelques années après, il y eut un procès qui causa à l'époque un grand scandale à Paris et une forte émotion dans tout le midi.
Rappelez-nous cela ?
C'est toujours devant la justice que je parle.
Mais oui.
D'ailleurs, c'est dans la Gazette des Tribunaux, les journaux l'ont raconté tout au long.
Donc je ne trahis pas les sentiments que l'ami Bécette éprouve pour ce pauvre M. Castagnier.
Et si ce que je dis peut vous aider à trouver le chenapan ?
Bref, un certain monsieur dont le nom m'échappe, peu importe, allez, un Parisien, je crois, un homme du Nord, enfin, fit un procès à M. Castagnier pour le forcer à lui rendre quelques centaines de 1000 francs qu'il prétendait avoir mis en dépôt chez lui. Chez M. Castagnier, alors courtier en vin, et son ami intime. M. Castagnier nia ce dépôt, prétendit que cet ami mentait, voulait lui extorquer de l'argent. Enfin, il le mit au défi de prouver ce dépôt. L'autre, en effet, ne put produire aucune pièce. Il ne fournit que ses déclarations, que son serment. Bref, il perdit le procès. Et comme il traita M. Castagnier de voleur,
qu'il voulut le tuer. Il fut condamné. Et M. Castanier continua d'augmenter sa fortune. Voilà.
Vous comprenez, dans le midi, les uns prirent parti pour, les autres contre M. Castanier.
Mon père se mit en dehors des discussions. M. Castanier était son camarade d'enfance, il ne connaissait pas l'autre. Il s'en tint au jugement rendu, se disant qu'au fond, M. Castanier pouvait avoir raison.
Cette conclusion amena un sourire sur les lèvres des magistrats. Mais l'importance des déclarations de ce bavard n'avait échappé à personne. Chacun voyait en elle l'explication probable de la lettre non terminée, sur laquelle le banquier avait pleuré, sur laquelle il était mort.
« Monsieur Castanier, reprit l'ami Bessette, resta en bon rapport avec mon père et moi, comme je n'ai pas à entrer dans ces histoires anciennes, quand je viens à Paris, tous les deux ou trois ans, je viens dire bonjour à Monsieur Castanier, qui me reçoit toujours très affectueusement. » Il ajouta, « Et même cette année, aujourd'hui, je devais doublement venir pour le voir et pour le féliciter du mariage de sa fille Irma avec le marquis Santucci. » D'autant plus que je connais aussi la famille du marquis.
« Ah, vous connaissez aussi la famille di Carmine Santucci ?» demanda M. de Capestin avec un vif intérêt.
« Parfaitement. Je fais aussi les vins de Sicile, et je plaçais les vins du domaine du marquis, du père du futur gendre, le père qui est mort l'an dernier, un homme charmant, grand seigneur tout à fait, qui me recevait comme M. Castanier ici, chez lui, là-bas, dans son vieux château de Trapani. »
Martin Numa demanda alors, « Naturellement, vous connaissez aussi le marquis Primo ?»
« Parbleu, je l'ai vu 100 fois. Nous avons chassé ensemble, là-bas, fait des excursions. Et je connais le marquis Primo.
Lui, vous connaît-il ?
Lui, le marquis Primo ? Mais entre tout le genre humain, il reconnaîtrait son ami Bessette.
Cependant, il ne vous a pas reconnu.
Quand ?
Mais il y a quelques minutes, lorsque vous êtes entré ici.
Ici ? Où m'a-t-il vu ?
Ici, vous étiez dans l'antichambre ?
Parfaitement. Donc le marquis a passé devant vous ?
Devant moi ?
Ah, par exemple ? S'il n'a pas reconnu l'ami Bessette, c'est que forcément il ne l'a pas vu.
À cela, rien d'étonnant, le marquis pleurait et tenait son mouchoir devant ses yeux.
Cet homme qui pleurait, là, oui.
En effet, je l'ai vu.
C'était le marquis.
L'ami Bessette manifesta le plus grand étonnement.
Lui, le marquis ? S'écria-t-il. Lui, Primo ? Ça, c'est fort !
En quittant sa chaise, se dressant sur ses courtes jambes et étendant ses petits bras, il ajouta d'un ton désolé.
Eh bien, messieurs, je l'avoue. Je ne sais pas où j'avais les yeux à ce moment, mais je n'ai pas reconnu le marquis Primo di Carmine Santucci. »
Les magistrats tressaillirent profondément. Ce que l'ami Bessette leur déclarait ouvrait à leur esprit un horizon infini de suppositions. Plus ils cherchaient à éclaircir cette affaire, plus ils s'enfonçaient dans le mystère. L'ami Bessette, aussi ému que les magistrats, aussi anxieux, reprit après un court moment de silence, effort terrible pour un méridional, reprit d'un air navré.
« Non. » « Messieurs les juges, j'ai bien vu passer le marquis, mais je ne l'ai pas reconnu.
Et cependant, vous savez, je le connais bien. »
Martin Numa, de sa voix calme, dit alors, « À cela, rien d'étonnant, monsieur Bessette. C'est tout à fait normal, en effet. Et nous sommes parfaitement certains que vous connaissez très bien le marquis. Nous ne nous étonnons nullement que vous n'ayez pas reconnu ici.
Comment cela, monsieur ?
Très simplement. Généralement, on reconnaît surtout les gens à leur visage,
en effet. »
Ça a l'air d'une plaisanterie, ce que je dis, mais rien n'est plus exact. On reconnaît surtout les gens à leur figure. Or, précisément, le marquis cachait la sienne.
C'est vrai.
M. Bessette n'a donc pu voir qu'un homme, une silhouette en redingote noire. Or, à peu de choses près.
Surtout dans la pénombre d'une antichambre, entre deux portes, dans un passage rapide, toutes les silhouettes d'hommes de taille moyenne en redingote de deuil se ressemblent.
C'est possible, en effet.
D'autant plus juste que M. Bessette, le cœur troublé par l'émotion que lui causa la mort de M. Castanier, pressé par le désir de faire connaître aux magistrats ce qui peut les aider dans leur tâche, au moment où devant lui passa le marquis, dans la pénombre, et je dis, le visage masqué, ne lui accorda qu'un bref coup d'œil, M. Bessette gardait tout son esprit tendu, ses regards tournés vers cette salle, où il brûlait d'entrer et d'apporter sa contribution loyale d'ami du défunt à notre œuvre de justice.
L'ami Bessette, à ces mots, s'écria,
« C'est bien cela, oui, c'est cela, c'est tout à fait cela, vous avez raison. »
Puis il ajouta, « Cependant, messieurs, je ne voudrais pas que le moindre soupçon demeurât dans votre esprit, que j'ai pu me vanter à faux ou simplement exagérer en disant que je connaissais le marquis Primo di Carmine Santucci. »«
Nous vous croyons, » fit M. de Capestin.
« L'ami Bessette est un homme de parole. Dans le midi, il est un des rares qui disent à peu près exactement ce qui s'est passé. Alors, messieurs, je tiens à ce qu'on vérifie mes assertions. »
C'est inutile.
Cependant, insista l'ami Bessette, « je tiens à ce que vous ayez cette sorte de contrôle, cette confirmation de mes déclarations. »
« Nous ne pouvons en effet vous refuser cette satisfaction. Il y a un moyen bien simple de tout concilier sans froisser personne. »
Et s'adressant au juge d'instruction, « Il me semble, dit Martin Dumas, que nous avons oublié de faire signer à M. Di Carmine Santucci sa dernière déclaration. Les pièces officielles doivent être absolument en règle. »
« En effet, dit M. de Capestin. »
Il donna l'ordre à un agent de prier M. le marquis de se rendre une seconde fois auprès de lui. Pendant ce temps, Martin Dumas fit placer l'ami Bessette un peu en arrière, dans l'ombre.
« Je vous ferai savoir, lui dit-il, le moment où vous pourrez vous montrer. »
Pour plus de certitude, il se tint auprès du pétulant méridional. Peu après, le marquis entrait.
« Je vous demande bien pardon, lui dit M. de Capestin, de vous déranger encore une fois, mais tout à l'heure, nous avons oublié une petite formalité indispensable.
« Je suis, messieurs, répondit le marquis, entièrement à la disposition de la justice.
Que voulez-vous de moi encore ?
Simplement votre signature au bas de cette pièce, c'est votre dernière déclaration.
Bien, messieurs, voici. »
Le marquis prit la plume que lui présentait le juge d'instruction et signa. Au moment où, s'étant relevé, il attendait et demandait du regard au magistrat s'il n'avait plus besoin de lui, Martin Dumas lui dit
« Monsieur Bessette, de Béziers, voudrait vous présenter ses sentiments de condoléance. »
« Monsieur Bessette, fit le marquis avec étonnement. « Qui est-ce, Monsieur Bessette ?»«
Un ami de la famille de Monsieur Castanier. »«
Ah, bien. »«
Un ami de votre famille aussi. »«
De ma famille, Monsieur Bessette. »
Martin Dumas lâcha le méridional qui bouillait dans son coin.
« Eh oui, mon cher marquis, c'est moi, Bessette, l'ami Bessette. »
Le marquis regarda avec un étonnement très sincère et aussi avec anxiété ce petit gros homme, qui les jambes en cerceau, dodelinant son ventre, s'avançait vers lui, les deux mains affectueusement tendues au bout de ses bras trop courts. Mais, maître de lui, il se ressaisit et prit une des mains que lui tendait le brave homme.
« Ah, c'est vous, l'ami Bessette. J'ai en effet entendu parler de vous chez mon malheureux futur beau-père.
Et chez monsieur votre père aussi, je suppose.
C'est possible, en effet.
C'est certain.
Monsieur votre père estimait tout particulièrement l'ami Bessette. Nous avons ensemble traité plusieurs affaires de vin de Sicile. Quand je suis allé en Sicile, monsieur le marquis, votre vénéré père m'a fait cet honneur de me recevoir chez lui, en son palais de Trapani, de m'emmener avec lui visiter ses domaines, ses vignes, ses caves. Mais vous étiez, vous aussi, de cette partie. Nous avons même chassé ensemble. Il aimait m'entendre chanter, car je chante bien. Je suis connu dans le Midi pour ma voix et mes vins. »
Le marquis écoutait avec la plus grande attention le méridional. Ils échangèrent tous deux quelques questions, se firent des réponses, se donnèrent des détails spéciaux, particuliers, montrant en effet qu'ils connaissaient les mêmes lieux, les mêmes personnes, qu'ils avaient bien dû se rencontrer en Sicile. Puis le marquis conclut.
« Je vous demande pardon, monsieur Bessette, de ne pas vous avoir reconnu tout de suite, de ne pas avoir gardé de vous un souvenir plus accusé, plus vif. Mais mon père recevait tant de monde. J'ai chassé avec de si nombreux compagnons que, fatalement, j'ai dû en oublier quelques-uns. » D'autant plus que voilà déjà plusieurs années que vous n'êtes venu en Sicile.
En effet, plus de 5 ans.
C'est cela. Et moi, j'ai passé près de 4 ans à voyager en Amérique.
En Amérique, parfaitement.
Je me souviens que vous m'aviez annoncé votre intention de partir pour le Nouveau Monde.
C'est exact.
Alors, je comprends. C'est clair maintenant. L'absence, les pays nouveaux, les voyages, les quantités de figures différentes. Vous avez forcément oublié un peu l'ami Bessette.
Rien n'est plus naturel.
Mais je n'en suis pas moins très heureux de renouveler connaissance, de recommencer nos bonnes relations.
Tout l'honneur, tout le plaisir seront pour moi.
Vous vouliez sans doute présenter vos sentiments de condoléances à Madame Castanier.
Certainement.
Cette pauvre Madame Castanier, comme elle doit être affligée.
Accablée. Elle sera sensible à votre démarche.
Si vous le voulez bien, je vais vous conduire près d'elle.
Je vous en serai reconnaissant.
Le marquis demanda au juge d'instruction s'il n'avait plus besoin de lui.
L'ami Bessette rayonnait à lui. Il dit tout bas à Martin Dumas, « Vous voyez que je vous avais dit la vérité, et que chez le marquis Santucci, comme chez ce pauvre monsieur Castanier, on connaissait l'ami Bessette. Nous n'en doutions pas. »
Quand le marquis et le méridional furent sortis, les magistrats de nouveau échangèrent entre eux des regards anxieux, comme pour se poser les uns aux autres la même question.
« Qu'est-ce que cela veut dire ?»
Martin Dumas semblait impassible. « Votre avis ? » lui demanda monsieur de Capestin.
« Que pensez-vous de cela ?»
De cet ami Bessette qui ne reconnaît pas ses amis et qu'on ne reconnaît qu'après coup.
« Je pense, déclara Martin Dumas, que ce voyage en Amérique du marquis est providentiel, donne une explication merveilleuse. C'est une sorte d'alibi. »
Je n'osais dire le mot.
En tout cas,
si après examen plus attentif, l'ami Bessette a reconnu son ami di Carmine Santucci, je pense que jamais, avant cette heure, le marquis n'avait vu l'ami Bessette. Après cette déclaration aussi grave qu'impressionnante, qui fit frissonner tous ceux qui l'entendirent, Martin Numa, un peu plus pâle peut-être qu'auparavant, ayant dans les yeux une sorte de flamme froide, demanda au magistrat la permission de se retirer. Il m'emmena. Son auto l'attendait à la porte. Il donna au chauffeur une adresse que je ne saisis pas et qui importe peu au demeurant. « Nous allons, me dit-il, chez M. Charles Castanier, le fils de la victime. » Les magistrats, qui viennent, comme moi d'ailleurs, d'avoir cette adresse, vont, quand ils auront fini leurs interrogatoires là-bas, vouloir perquisitionner ici. Comme j'ai besoin d'y trouver quelque chose, je veux parcourir l'appartement avant que les hommes de loi, sous couleur de perquisition, aient tout bouleversé, tout mis sens dessus-dessous, pour ne rien découvrir. Je veux avoir le pouce. Le pouce, quel pouce? Celui de Charles Castanier. Ainsi s'achève La peau du tatoué, tome 5e, de Martin Numa, le roi des détectives, par Léon Sazy.